Chapitre 5. René de Maucombe à Louise de Chaulieu. Octobre. Combien ta lettre m'a émue, émue surtout par la comparaison de nos destinées. Dans quel monde brillant tu vas vivre, dans quelle paisible retraite achèverai-je mon obscure carrière. 15 jours après mon arrivée au château de Maucombe, duquel je t'ai trop parlé pour t'en parler encore, et où j'ai retrouvé ma chambre à peu près dans l'état où je l'avais laissée, mais d'où j'ai pu comprendre le sublime paysage de la vallée de Gémenos, qu'enfant, je regardais sans y rien voir. Mon père et ma mère, accompagnés de mes deux frères, m'ont mené dîner chez un de nos voisins, un vieux monsieur de l'Estorade, gentilhomme devenu très riche, comme on devient riche en province, par les soins de l'avarice. Ce vieillard n'avait pu soustraire son fils unique à la rapacité de Buonaparte. Après l'avoir sauvé de la conscription, il avait été forcé de l'envoyer à l'armée en 1813 en qualité de garde d'honneur. Depuis Leipzig, le vieux baron de l'Estorade n'en avait plus eu de nouvelles. Monsieur de Montriveau, que Monsieur de l'Estorade alla voir en 1814, lui affirma l'avoir vu prendre par les Russes. Madame de l'Estorade mourut de chagrin en faisant faire d'inutiles recherches en Russie. Le baron, vieillard très chrétien, pratiquait cette belle vertu théologale que nous cultivions à Blois, l'espérance. Elle lui faisait voir son fils en rêve, et il accumulait ses revenus pour ce fils. Il prenait soin des parts de ce fils dans les successions qui lui venaient de la famille de feu Madame de l'Estorade. Personne n'avait le courage de plaisanter ce vieillard. J'ai fini par deviner que le retour inespéré de ce fils était la cause du mien. Qui nous eût dit que pendant les courses vagabondes de notre pensée, mon futur cheminait lentement à pied à travers la Russie, la Pologne et l'Allemagne. Sa mauvaise destinée n'a cessé qu'à Berlin, où le ministre français lui a facilité son retour en France. Monsieur de l'Estorade, le père, petit gentilhomme de Provence, riche d'environ 10 000 livres de rente, n'a pas un nom assez européen pour qu'on s'intéressât au chevalier de l'Estorade, dont le nom sentait singulièrement son aventurier. 12 000 livres, produit annuel des biens de Madame de l'Estorade, accumulés avec les économies paternelles, font au pauvre garde d'honneur une fortune considérable en Provence, quelque chose comme 250 000 livres, outre ses biens au soleil. Le bonhomme l'Estorade avait acheté la veille du jour où il devait revoir le chevalier un beau domaine mal administré où il se proposait de planter 10 000 mûriers qu'il élevait exprès dans sa pépinière en prévoyant cette acquisition. Le baron, en retrouvant son fils, n'a plus qu'une pensée, celle de le marier et de le marier à une jeune fille noble. Mon père et ma mère ont partagé pour mon compte la pensée de leur voisin dès que le vieillard leur eut annoncé son intention de prendre René de Maucombe sans dot et de lui reconnaître au contrat toute la somme qui doit revenir à la dite René dans leur succession. Dès sa majorité, mon frère cadet, Jean de Maucombe, a reconnu avoir reçu de ses parents un avancement d'hoirie équivalent au tiers de l'héritage. Voilà comment les familles nobles de la Provence élus de l'infâme code civil du sieur de Buonaparte, qui fera mettre au couvent autant de filles nobles qu'il en a fait marier. La noblesse française est, d'après le peu que j'ai entendu dire à ce sujet, très divisée sur ces graves matières. Ce dîner, ma chère mignonne, était une entrevue entre ta biche et l'exilé. Procédons par ordre. Les gens du comte de Maucombe se sont revêtus de leurs vieilles livrées galonnées, de leurs chapeaux bordés, le cocher a pris ses grandes bottes à chaudron. Nous avons tenu 5 dans le vieux carrosse, et nous sommes arrivés en toute majesté vers 2 heures pour dîner à 3 à la Bastide où demeure le baron de l'Estorade. Le beau-père n'a point de château, mais une simple maison de campagne, située au pied de nos collines, au débouché de notre belle vallée, dont l'orgueil est certes le vieux castel de Maucombe. Cette bastide est une bastide, quatre murailles de cailloux revêtues d'un ciment jaunâtre, couvertes de tuiles creuses d'un beau rouge. Les toits plient sous le poids de cette briqueterie. Les fenêtres, percées au travers sans aucune symétrie, ont des volets énormes peints en jaune. Le jardin qui entoure cette habitation est un jardin de Provence, entouré de petits murs bâtis en gros cailloux ronds, mis par couches, où le génie du maçon éclate dans la manière dont il les pose, alternativement inclinés ou debout sur leur hauteur. La couche de boue qui les recouvre tombe par places. La tournure domaniale de cette bastide vient d'une grille à l'entrée sur le chemin. On a longtemps pleuré pour avoir cette grille. Elle est si maigre qu'elle m'a rappelé la sœur Angélique. La maison a un perron en pierre. La porte est décorée d'un auvent que ne voudrait pas un paysan de la Loire pour son élégante maison en pierre blanche à toiture bleue, où rit le soleil. Le jardin, les alentours, sont horriblement poudreux. Les arbres sont brûlés. On voit que depuis longtemps, la vie du baron consiste à se lever, se coucher et se relever le lendemain sans nul souci que celui d'entasser sou sur sou. Il mange ce que mangent ses deux domestiques, qui sont un garçon provençal et la vieille femme de chambre de sa femme. Les pièces ont peu de mobilier. Cependant, la maison de l'Estorade s'était mise en frais. Elle avait vidé ses armoires, convoqué le banc et l'arrière-banc de ses serfs pour ce dîner qui nous a été servi dans une vieille argenterie noire et bosselée. L'exilé, ma chère mignonne, est comme la grille, bien maigre. Il est pâle, il a souffert, il est taciturne. À 37 ans, il a l'air d'en avoir 50. L'ébène de ses ex-beaux cheveux de jeune homme est mélangée de blanc, comme l'aile d'une alouette. Ses yeux bleus sont caves. Il est un peu sourd, ce qui le fait ressembler au chevalier de la triste figure. Néanmoins, j'ai consenti gracieusement à devenir madame de l'Estorade, à me laisser doter de 250 000 livres, mais à la condition expresse d'être maîtresse d'arranger la bastide et d'y faire un parc. J'ai formellement exigé de mon père de me concéder une petite partie d'eau qui peut venir de Maucombe ici. Dans un mois, je serai madame de l'Estorade, car j'ai plu, ma chère. Après les neiges de la Sibérie, un homme est très disposé à trouver du mérite à ses yeux noirs qui, disais-tu, faisaient mûrir les fruits que je regardais. Louis de l'Estorade paraît excessivement heureux d'épouser la belle Renée de Maucombe. Tel est le glorieux surnom de ton ami. Pendant que tu t'apprêtes à moissonner les joies de la plus vaste existence, celle d'une demoiselle de Chaulieu dans Paris, où tu règneras, ta pauvre biche, Renée, cette fille du désert, est tombée de l'empyrée où nous nous élevions, dans les réalités vulgaires, d'une destinée simple comme celle d'une pâquerette. Oui, je me suis jurée à moi-même de consoler ce jeune homme sans jeunesse, qui a passé du giron maternel à celui de la guerre et des joies de sa bastide aux glaces et aux travaux de la Sibérie. L'uniformité de mes jours à venir sera variée par les humbles plaisirs de la campagne. Je continuerai l'oasis de la vallée de Gémenos autour de ma maison, qui sera majestueusement ombragée de beaux arbres. J'aurai des gazons toujours verts en Provence. Je ferai monter mon parc jusque sur la colline. Je placerai sur le point le plus élevé quelques jolis kiosques d'où mes yeux pourront voir peut-être la brillante Méditerranée. L'oranger, le citronnier, les plus riches productions de la botanique embelliront ma retraite. Et j'y serai mère de famille. Une poésie naturelle, indestructible, nous environnera. en restant fidèle à mes devoirs, aucun malheur n'est à redouter. Mes sentiments chrétiens sont partagés par mon beau-père et par le chevalier de l'Estorade. Ah, mignonne, j'aperçois la vie comme un de ces grands chemins de France, unis et doux, ombragés d'arbres éternels. Il n'y aura pas deux Buonaparte en ce siècle. Je pourrai garder mes enfants si j'en ai, les élever, en faire des hommes. Je jouirai de la vie par eux. Si tu ne manques pas à ta destinée, toi, qui seras la femme de quelque puissant de la terre, les enfants de ta Renée auront une active protection. Adieu donc, pour moi du moins, les romans et les situations bizarres dont nous nous faisions les héroïnes. Je sais déjà par avance l'histoire de ma vie. Ma vie sera traversée par les grands événements de la dentition de messieurs de l'Estorade, par leur nourriture, par les dégâts qu'ils feront dans mes massifs et dans ma personne. Leur broder des bonnets, être aimé et admiré par un homme souffreteux à l'entrée de la vallée de Gémenos, voilà mes plaisirs. Peut-être un jour, la campagnarde ira-t-elle habiter Marseille pendant l'hiver. Mais alors, elle n'apparaîtrait encore que sur le théâtre étroit de la province, dont les coulisses ne sont point périlleuses. Je n'aurai rien à redouter, pas même une de ces admirations qui peuvent nous rendre fiers. Nous nous intéresserons beaucoup aux vers à soie pour lesquels nous aurons des feuilles de mûrier à vendre. Nous connaîtrons les étranges vicissitudes de la vie provençale et les tempêtes d'un ménage sans querelle possible. Monsieur de l'Estorade annonce l'intention formelle de se laisser conduire par sa femme. Or, comme je ne ferai rien pour l'entretenir dans cette sagesse, il est probable qu'il y persistera. Tu seras, ma chère Louise, la partie romanesque de mon existence. Aussi, raconte-moi bien tes aventures. Peins-moi les bals, les fêtes. Dis-moi bien comment tu t'habilles. Quelle fleur couronne tes beaux cheveux blonds. Et les paroles des hommes, et leurs façons. Tu seras deux à écouter, à danser, à sentir le bout de tes doigts pressés. Je voudrais bien m'amuser à Paris, pendant que tu seras mère de famille à la Crampade. Tel est le nom de notre Bastide. Pauvre homme qui croit épouser une seule femme, s'apercevra-t-il qu'elles sont deux? Je commence à dire des folies. Comme je ne puis plus en faire que par procuration, je m'arrête. Donc, un baiser sur chacune de tes joues. Mes lèvres sont encore celles d'une jeune fille. Il n'a osé prendre que ma main. Oh, nous sommes d'un respectueux et d'une convenance assez inquiétant. Eh bien, je recommence. Adieu, cher. Post-scriptum, j'ouvre ta troisième lettre. Ma chère, je puis disposer d'environ 1000 livres. Emploie-les-moi donc en jolies choses qui ne se trouveront point dans les environs, ni même à Marseille. En courant pour toi-même, pense à ta recluse de la Crampade. Songe que ni d'un côté ni de l'autre, les grands-parents n'ont à Paris des gens de goût pour leurs acquisitions. Je répondrai plus tard à cette lettre.
Lettre numéro 6. Don Felipe Eñarez à Don Fernand. Paris, septembre. La date de cette lettre vous dira, mon frère, que le chef de votre maison ne court aucun danger. Si le massacre de nos ancêtres dans la cour des lions nous a fait, malgré nous, espagnols et chrétiens, il nous a légué la prudence des Arabes, et peut-être ai-je dû mon salut au sang d'Abencerrage qui coule encore dans mes veines. La peur rendait Ferdinand si bon comédien que Valdez croyait à ses protestations. Sans moi, ce pauvre amiral était perdu. jamais les libéraux ne sauront ce qu'est un roi. Mais le caractère de ce Bourbon m'est connu depuis longtemps. Plus Sa Majesté nous assurait de sa protection, plus elle éveillait ma défiance. Un véritable Espagnol n'a nul besoin de répéter ses promesses. Qui parle trop veut tromper. Valdez a passé sur un bâtiment anglais. Quant à moi, dès que les destinées de ma chère Espagne furent perdues en Andalousie, j'écrivis à l'intendant de mes biens en Sardaigne de pourvoir à ma sûreté. D'habiles pêcheurs de corail m'attendaient avec une barque sur un point de la côte. Lorsque Ferdinand recommandait aux Français de s'assurer de ma personne, j'étais dans ma baronnie de Macumer au milieu de bandits qui défient toutes les lois et toutes les vengeances. La dernière maison hispano-maure de Grenade a retrouvé les déserts d'Afrique et jusqu'au cheval sarrasin dans un domaine qui lui vient des Sarrasins. Les yeux de ces bandits ont brillé d'une joie et d'un orgueil sauvage en apprenant qu'ils protégeaient contre la vendetta du roi d'Espagne le duc de Soria, leur maître, un Hénarez enfin, le premier qui soit venu les visiter depuis le temps où l'île appartenait aux Maures, eux qui, la veille, craignaient ma justice. 22 carabines se sont offertes à viser Ferdinand de Bourbon, ce fils d'une race encore inconnue, au jour où les Abencérages arrivaient en vainqueurs au bord de la Loire. Je croyais pouvoir vivre des revenus de ces immenses domaines, auxquels nous avons malheureusement si peu songé, mais mon séjour m'a démontré mon erreur et la véracité des rapports de Quevedo. Le pauvre homme avait 22 vies d'hommes à mon service et pas un réal. Des savanes de 20 000 arpents et pas une maison. Des forêts vierges et pas un meuble. 1 million de piastres et la présence du maître pendant un demi-siècle seraient nécessaires pour mettre en valeur ces terres magnifiques. J'y songerai. Les vaincus méditent pendant leur fuite et sur eux-mêmes et sur la patrie perdue. En voyant ce beau cadavre rongé par les moines, mes yeux se sont baignés de larmes. J'y reconnaissais le triste avenir de l'Espagne. J'ai appris à Marseille la fin de Riego. J'ai pensé douloureusement que ma vie aussi va se terminer par un martyr, mais obscur et long. Sera-ce donc exister que de ne pouvoir ni se consacrer à un pays, ni vivre pour une femme? Aimer et conquérir, cette double face de la même idée était la loi gravée sur nos sabres, écrite en lettres d'or aux voûtes de nos palais, incessamment redite par les jets d'eau qui montaient en gerbe dans nos bassins de marbre. Mais cette loi fanatise inutilement mon cœur. Le sabre est brisé, le palais est en cendres, la source vive est bue par des sables stériles. Voici donc mon testament. Don Fernand, vous allez comprendre pourquoi je bridais votre ardeur en vous ordonnant de rester fidèle au Rey Netto. Comme ton frère et ton ami, je te supplie d'obéir. Comme votre maître, je vous le commande. Vous irez au roi, vous lui demanderez mes grandesses et mes biens, ma charge et mes titres. Il hésitera peut-être, fera quelques grimaces royales, mais vous lui direz que vous êtes aimé de Marie Heredia et que Marie ne peut épouser que le duc de Soria. Vous le verrez alors tressaillant de joie. L'immense fortune des Heredia l'empêchait de consommer ma ruine. Elle lui paraîtra complète ainsi, et vous aurez aussitôt ma dépouille. Vous épouserez Marie, j'avais surpris le secret de votre mutuel amour combattu. Aussi ai-je préparé le vieux comte à cette substitution. Marie et moi, nous obéissions aux convenances et aux vœux de nos pères. Vous êtes beau comme un enfant de l'amour, je suis laid comme un grand d'Espagne. Vous êtes aimé, je suis l'objet d'une répugnance inavouée. Vous aurez bientôt vaincu le peu de résistance que mon malheur inspirera peut-être à cette noble Espagnole. Duc de Soria, votre prédécesseur ne veut ni vous coûter un regret, ni vous priver d'un maravedi. Comme les joyaux de Marie peuvent réparer le vide que les diamants de ma mère feront dans votre maison, vous m'enverrez ces diamants, qui suffiront pour assurer l'indépendance de ma vie. Par ma nourrice, la vieille Urraca, la seule personne que je veuille conserver des gens de ma maison, elle seule sait bien préparer mon chocolat. Durant notre courte révolution, mes constants travaux avaient réduit ma vie au nécessaire, et les appointements de ma place y pourvoyaient. Vous trouverez les revenus de ces 2 dernières années entre les mains de votre intendant. Cette somme est à moi. Le mariage d'un duc de Soria occasionne de grandes dépenses. Nous la partagerons donc. Vous ne refuserez pas le présent de noces de votre frère le bandit. D'ailleurs, telle est ma volonté. La baronnie de Macumer n'étant pas sous la main du roi d'Espagne, elle me reste et me laisse la faculté d'avoir une patrie et un nom, si par hasard je voulais devenir quelque chose. Dieu soit loué, voici les affaires finies. La maison de Soria est sauvée. Au moment où je ne suis plus que baron de Macumer, les canons français annoncent l'entrée du duc d'Angoulême. Vous comprendrez, monsieur, pourquoi j'interromps ici ma lettre. Octobre. En arrivant ici, je n'avais pas dit quadruples. Un homme d'État n'est-il pas bien petit quand, au milieu des catastrophes qu'il n'a pas empêchées, il montre une prévoyance égoïste? Aux Maures vaincus, un cheval est le désert, aux chrétiens trompés dans leurs espérances, le couvent et quelques pièces d'or. Cependant, ma résignation n'est encore que de la lassitude. Je ne suis point assez près du monastère pour ne pas songer à vivre. Osalga m'avait, à tout hasard, donné des lettres de recommandation, parmi lesquelles il s'en trouvait une pour un libraire qui est à nos compatriotes ce que Calignani est ici aux Anglais. Cet homme m'a procuré 8 écoliers, à 3 francs par cachet. Je vais chez mes élèves de 2 jours l'un, j'ai donc 4 séances par jour et gagne 12 francs, somme bien supérieure à mes besoins. À l'arrivée d'Uraca, je ferai le bonheur de quelque Espagnol proscrit en lui cédant ma clientèle. Je suis logé rue Hillerin-Bertin, chez une pauvre veuve qui prend des pensionnaires. Ma chambre est au midi et donne sur un petit jardin. Je n'entends aucun bruit, je vois de la verdure et ne dépense en tout qu'une piastre par jour. Je suis tout étonné des plaisirs calmes et purs que je goûte dans cette ville de Nice à Corinthe. Depuis le lever du soleil jusqu'à 10 heures, je fume et prends mon chocolat assis à ma fenêtre en regardant 2 plantes espagnoles. Un genêt qui s'élève entre les masses d'un jasmin, de l'or sur un fond blanc, une image qui fera toujours tressaillir un rejeton des Maures. À 10 heures, je me mets en route jusqu'à 4 heures pour donner mes leçons. À 7 heures, je reviens dîner, je fume et lis jusqu'après mon coucher. Je puis mener longtemps cette vie que mélangent le travail et la méditation, la solitude et le monde. Sois donc heureux, Fernand. Mon abdication est accomplie sans arrière-pensée. Elle n'est suivie d'aucun regret comme celle de Charles Quint, d'aucune envie de renouer la partie comme celle de Napoléon. 5 nuits et 5 jours ont passé sur mon testament. La pensée en a fait 5 siècles. Les grandesses, les titres, les biens sont pour moi comme s'ils n'eussent jamais été. Maintenant que la barrière du respect qui nous séparait est tombée, je puis, cher enfant, te laisser lire dans mon cœur. Ce cœur que la gravité couvre d'une impénétrable armure est plein de tendresse et de dévouement sans emploi, mais aucune femme ne l'a deviné, pas même celle qui dès le berceau me fut destinée. Là est le secret de mon ardente vie politique. À défaut de maîtresse, j'ai adoré l'Espagne. L'Espagne aussi m'a échappé. Maintenant que je ne suis plus rien, je puis contempler le moi détruit, me demander pourquoi la vie y est venue et quand elle s'en ira. Pourquoi la race chevaleresque par excellence a jeté dans son dernier rejeton ses premières vertus, son amour africain, sa chaude poésie. Si la graine doit conserver sa rugueuse enveloppe sans pousser de tige, sans effeuiller ses parfums orientaux du haut d'un radieux calice, quel crime ai-je commis avant de naître pour n'avoir inspiré d'amour à personne? Dès ma naissance, étais-je donc un vieux débris, destiné à échouer sur une grève aride? Je retrouve en mon âme les déserts paternels, éclairés par un soleil qui les brûle sans y rien laisser croître. Reste orgueilleux d'une race déchue, force inutile, amour perdu, vieux jeune homme. J'attendrai donc où je suis, mieux que partout ailleurs, la dernière faveur de la mort. Hélas, sous ce ciel brumeux, aucune étincelle ne ranimera la flamme dans toutes ses cendres. Aussi pourrais-je dire pour dernier mot, comme Jésus-Christ, « Mon Dieu, tu m'as abandonné. » Terrible parole que personne n'a osé sonder. Juge, Fernand, combien je suis heureux de revivre en toi et en Marie. Je vous contemplerai désormais avec l'orgueil d'un créateur fier de son œuvre. Aimez-vous bien et toujours, ne me donnez pas de chagrin. Un orage entre vous me ferait plus de mal qu'à vous-même. » Notre mère avait pressenti que les événements serviraient un jour ses espérances. Peut-être le désir d'une mère est-il un contrat passé entre elle et Dieu? N'était-elle pas d'ailleurs un de ces êtres mystérieux qui peuvent communiquer avec le ciel et qui en rapportent une vision de l'avenir? Combien de fois n'ai-je pas lu dans les rides de son front qu'elle souhaitait à Fernand les honneurs et les biens de Felipe? Je le lui disais, elle me répondait par deux larmes et me montrait les plaies d'un cœur qui nous était dû tout entier à l'un comme à l'autre, mais qu'un invincible amour donnait à toi seul. Aussi son ombre joyeuse planera-t-elle au-dessus de vos têtes quand vous les inclinerez à l'autel. Viendrez-vous caresser enfin votre Felipe, Donna Clara? Vous le voyez, il cède à votre bien-aimé jusqu'à la jeune fille que vous poussiez à regret sur ses genoux. Ce que je fais plaît aux femmes, aux morts, aux rois. Dieu le voulait, n'y dérange donc rien, Fernand. Obéis et tais-toi. Postscriptum. Recommande à Urraca de ne pas me nommer autrement que Monsieur Henarez. Ne dis pas un mot de moi à Marie. Tu dois être le seul être vivant qui sache les secrets du dernier mort christianisé, dans les veines duquel mourra le sang de la grande famille née au désert, et qui va finir dans la solitude. Adieu.
Lettre 7, Louise de Chaulieu à René de Maucombe. Janvier 1824. Comment ? Bientôt mariée ? Mais prend-on les gens ainsi ? Au bout d'un mois, tu te promets à un homme, sans le connaître, sans en rien savoir ? Cet homme peut être sourd, on l'est de tant de manières. Il peut être maladif, ennuyeux, insupportable. Ne vois-tu pas, René, ce qu'on veut faire de toi? Tu leur es nécessaire pour continuer la glorieuse maison de l'Estorade, et voilà tout. Tu vas devenir une provinciale. Sont cela nos promesses mutuelles? À votre place, j'aimerais mieux aller me promener aux îles d'Hier en caïque, jusqu'à ce qu'un corsaire algérien m'enleva et me vendit au grand seigneur. Je deviendrai sultane, puis quelques jours validée, je mettrai le sérail sans dessus-dessous, et tant que je serai jeune, et quand je serai vieille. Tu sors d'un couvent pour entrer dans un autre. Je te connais, tu es lâche, tu vas entrer en ménage avec une soumission d'agneau. Je te donnerai des conseils, tu viendras à Paris. Nous y ferons enrager les hommes, et nous deviendrons des reines. Ton mari, ma belle biche, peut... dans 3 ans d'ici, se faire nommer député. Je sais maintenant ce qu'est un député, je te l'expliquerai. Tu joueras très bien de cette machine, tu pourras demeurer à Paris et y devenir, comme dit ma mère, une femme à la mode. Oh, je ne te laisserai certes pas dans ta bastide. Lundi. Voilà 15 jours, ma chère, que je vis de la vie du monde. Un soir aux Italiens, l'autre au Grand Opéra. De là, toujours au bal. Ah, le monde est une féerie. La musique des Italiens me ravit. Et pendant que mon âme nage dans un plaisir divin, je suis lorgnée, admirée. Mais par un seul de mes regards, je fais baisser les yeux au plus hardi jeune homme. J'ai vu là des jeunes gens charmants. Eh bien, pas un ne me plaît. Aucun ne m'a causé l'émotion que j'éprouve en entendant Garcia dans son magnifique duo avec Pellegrini dans Othello. Mon Dieu, combien ce Rossini doit être jaloux pour avoir si bien exprimé la jalousie. Quel cri que il mit au corps si divide. Je te parle grec. Tu n'as pas entendu, Garcia, mais tu sais combien je suis jalouse. Quel triste dramaturge que Shakespeare. Othello se prend de gloire, il remporte des victoires, il commande, il parade, il se promène en laissant Desdémone dans son coin, et Desdémone, qui le voit préférant à elle les stupidités de la vie publique, ne se fâche point. Cette brebis mérite la mort. Que celui que je daignerais aimer s'avise de faire autre chose que de m'aimer. Moi, je suis pour les longues épreuves de l'ancienne chevalerie. Je regarde comme très impertinent et très sot ce paltoquet de jeune seigneur qui a trouvé mauvais que sa souveraine l'envoyât chercher son gant au milieu des lions. Elle lui réservait sans doute quelque belle fleur d'amour, et il l'a perdue après l'avoir méritée, l'insolent. Mais je babille comme si je n'avais pas de grandes nouvelles à t'apprendre. Mon père va sans doute représenter le roi, notre maître, à Madrid. Je dis notre maître, car je ferai partie de l'ambassade. Ma mère désire rester ici. Mon père m'emmènera pour avoir une femme près de lui. Ma chère, tu ne vois là rien que de simple, et néanmoins, il y a là des choses monstrueuses. En 15 jours, j'ai découvert les secrets de la maison. Ma mère suivrait mon père à Madrid s'il voulait prendre monsieur de Saint-Hérène en qualité de secrétaire d'ambassade. Mais le roi désigne les secrétaires. Le duc n'ose pas contrarier le roi, qui est fort absolu, ni fâcher ma mère. Et ce grand politique croit avoir tranché les difficultés en laissant ici la duchesse. Monsieur de Saint-Hérène est le jeune homme qui cultive la société de ma mère et qui étudie sans doute avec elle la diplomatie de 3 heures à 5 heures. La diplomatie doit être une belle chose, car il est assidu, comme un joueur à la bourse. Monsieur le duc de Rhétoré, notre aîné, solennel, froid et fantasque, serait écrasé par son père à Madrid. Il reste à Paris. Miss Guifis sait d'ailleurs qu'Alphonse aime une danseuse de l'opéra. Comment peut-on aimer des jambes et des pirouettes? Nous avons remarqué que mon frère assiste aux représentations quand il danse Tullia. Il applaudit les pas de cette créature et sort après. Je crois que 2 filles dans une maison y font plus de ravages que n'en ferait la peste. Quant à mon second frère, il est à son régiment, je ne l'ai pas encore vu. Voilà comment je suis destinée à être l'Antigone d'un ambassadeur de Sa Majesté. Peut-être me marierai-je en Espagne, et peut-être la pensée de mon père est-elle de m'y marier sans dot, absolument comme on te marie à ce reste de vieux garde d'honneur. Mon père m'a proposé de le suivre et m'a offert son maître d'espagnol. Vous voulez, lui ai-je dit, me faire faire des mariages en Espagne? Il m'a pour toute réponse honoré d'un fin regard. Il aime depuis quelques jours à m'agacer au déjeuner. Il m'étudie et je dissimule. Aussi l'ai-je, comme père et comme ambassadeur, in petto, cruellement mystifié. Ne me prenait-il pas pour une sotte? Il me demandait ce que je pensais de tel jeune homme et de quelques demoiselles avec lesquelles je me suis trouvée dans plusieurs maisons. Je lui ai répondu par la plus stupide discussion sur la couleur des cheveux, sur la différence des tailles, sur la physionomie des jeunes gens. Mon père parut désappointé de me trouver si niaise. Il se blâma intérieurement de m'avoir interrogé. Cependant, mon père, ajoutai-je, je ne dis pas ce que je pense réellement. Ma mère m'a dernièrement fait peur d'être inconvenante en parlant de mes impressions. En famille, vous pouvez vous expliquer sans crainte, répondit ma mère. Eh bien, repris-je, les jeunes gens m'ont jusqu'à présent paru être plus intéressés qu'intéressants, plus occupés d'eux que de nous. Mais ils sont, à la vérité, très peu dissimulés. Ils quittent à l'instant la physionomie qu'ils ont prise pour nous parler et s'imaginent sans doute que nous ne savons point nous servir de nos yeux. L'homme qui nous parle est l'amant. L'homme qui ne nous parle plus est le mari. Quant aux jeunes personnes, elles sont si fausses qu'il est impossible de deviner leur caractère autrement que par celui de leur danse. Il n'y a que leur taille et leur mouvement qui ne mentent point. J'ai surtout été effrayée de la brutalité du beau monde. Quand il s'agit de souper, il se passe, toute proportion gardée, des choses qui me donnent une image des émeutes populaires. La politesse cache très imparfaitement l'égoïsme général. Je me figurais le monde autrement. Les femmes y sont comptées pour peu de choses, et peut-être est-ce un reste des doctrines de Bonaparte. « Armande fait d'étonnants progrès, » a dit ma mère. « Ma mère, croyez-vous que je vous demanderai toujours si Madame de Staël est morte ?» Mon père sourit et se leva. Samedi. « Ma chère, je n'ai pas tout dit. Voici ce que je te réserve. L'amour que nous imaginions doit être bien profondément caché. Je n'en ai vu de traces nulle part. J'ai bien surpris quelques regards rapidement échangés dans les salons. Mais quelle pâleur ! Notre amour, ce monde de merveilles, de beaux songes, de réalités délicieuses, de plaisirs et de douleurs se répondant. Ces sourires qui éclairent la nature, ces paroles qui ravissent, ce bonheur toujours donné, toujours reçu, ces tristesses causées par l'éloignement et ces joies que prodigue la présence de l'être aimé. De tout cela, rien. Où toutes ces splendides fleurs de l'âme naissent-elles? Qui ment? Nous ou le monde? J'ai déjà vu des jeunes gens, des hommes par centaines, et pas un ne m'a causé la moindre émotion. Ils m'auraient témoigné admiration et dévouement, ils se seraient battus, j'aurais tout regardé d'un œil insensible. L'amour, ma chère, comporte un phénomène si rare qu'on peut vivre toute sa vie sans rencontrer l'être à qui la nature a départi le pouvoir de nous rendre heureuses. Cette réflexion fait frémir, car si cet être se rencontre tard, hein ? Depuis quelques jours, je commence à m'épouvanter de notre destinée. À comprendre pourquoi tant de femmes ont des visages attristés sous la couche de vermillon qui mettent les fausses joies d'une fête. On se marie au hasard, et tu te maries ainsi. Des ouragans de pensées ont passé dans mon âme. Être aimée tous les jours de la même manière et néanmoins diversement. Être aimée autant après 10 ans de bonheur que le premier jour. Un pareil amour veut des années. Il faut s'être laissé désirer pendant bien du temps, avoir éveillé bien des curiosités et les satisfaire, avoir excité bien des sympathies et y répondre. Y a-t-il donc des lois pour les créations du cœur, comme pour les créations visibles de la nature? L'allégresse se soutient-elle? Dans quelle proportion l'amour doit-il mélanger ses larmes et ses plaisirs? Les froides combinaisons de la vie funèbre, égale, permanente du couvent, m'ont alors semblé possibles. Tandis que les richesses, les magnificences, les pleurs, les délices, les fêtes, les joies, les plaisirs de l'amour égal, partagé, permis, m'ont semblé l'impossible. Je ne vois point de place dans cette ville aux douceurs de l'amour, à ses saintes promenades sous des charmilles, au clair de la pleine lune, quand elle fait briller les eaux et qu'on résiste à des prières. Riche, jeune et belle, je n'ai qu'à aimer. L'amour peut devenir ma vie, ma seule occupation. Or, depuis 3 mois que je vais, que je viens avec une impatiente curiosité, je n'ai rien rencontré parmi ces regards brillants, avides, éveillés. Aucune voix ne m'a émue, aucun regard ne m'a illuminé ce monde. La musique seule a rempli mon âme, elle seule a été pour moi ce qu'est notre amitié. Je suis restée quelquefois pendant 1 heure la nuit à ma fenêtre, regardant le jardin, appelant des événements, les demandant à la source inconnue d'où ils sortent. Je suis quelquefois partie en voiture, allant me promener, mettant pied à terre dans les Champs-Élysées, en imaginant qu'un homme, que celui qui réveillera mon âme engourdie, arrivera, me suivra, me regardera. Mais ces jours-là, j'ai vu des saltimbanques, des marchands de pain d'épices et des faiseurs de tours, des passants pressés d'aller à leurs affaires, ou des amoureux qui fuyaient tous les regards. Et j'étais tentée de les arrêter et de leur dire « Vous qui êtes heureux, dites-moi ce que c'est que l'amour !» Mais je rentrais ces folles pensées. Je remontais en voiture et je me promettais de demeurer vieille fille. L'amour est certainement une incarnation. Et quelles conditions ne faut-il pas pour qu'elle ait lieu? Nous ne sommes pas certaines d'être toujours bien d'accord avec nous-mêmes. Que sera-ce à deux? Dieu seul peut résoudre ce problème. Je commence à croire que je retournerai au couvent. Si je reste dans le monde, j'y ferai des choses qui ressembleront à des sottises, car il m'est impossible d'accepter ce que je vois. Tout blesse mes délicatesses, les mœurs de mon âme ou mes secrètes pensées. Ah ! Ma mère est la femme la plus heureuse du monde. Elle est adorée par son petit Saint-Irène. Mon ange, il me prend d'horribles fantaisies de savoir ce qui se passe entre ma mère et ce jeune homme. Griffiths a, dit-elle, eu toutes ses idées. Elle a eu envie de sauter au visage des femmes qu'elle voyait heureuses. Elle les a dénigrées, déchirées. Selon elle, la vertu consiste à enterrer toutes ces sauvageries-là dans le fond de son cœur. Qu'est-ce donc que le fond du cœur? Un entrepôt de tout ce que nous avons de mauvais? Je suis très humiliée de ne pas avoir rencontré d'adorateur. Je suis une fille à marier, mais j'ai des frères, une famille, des parents chatouilleux. Ah ! Si telle était la raison de la retenue des hommes, ils seraient bien lâches. Le rôle de Chimène dans le Cid et celui du Cid me ravissent. Quelle admirable pièce de théâtre ! Allons, adieu. Lettre 8, la même à la même. Janvier. Nous avons pour maître un pauvre réfugié forcé de se cacher à cause de sa participation à la révolution que le duc d'Angoulême est allé vaincre. Succès auquel nous avons dû de belles fêtes. Quoique libéral et sans doute bourgeois, cet homme m'a intéressé. Je me suis imaginé qu'il était condamné à mort. Je le fais causer pour savoir son secret, mais il est d'une taciturnité castillane, fier comme s'il était Gonzalve de Cordoue. Et néanmoins, d'une douceur et d'une patience angélique. Sa fierté n'est pas montée comme celle de Miss Griffiths, elle est tout intérieure. Il se fait rendre ce qui lui est dû en nous rendant ses devoirs, et nous écarte de lui par le respect qu'il nous témoigne. Mon père prétend qu'il y a beaucoup du grand seigneur chez le sieur Hénarez, qu'il nomme entre nous Don Hénarez par plaisanterie. Quand je me suis permis de l'appeler ainsi, il y a quelques jours, cet homme a relevé sur moi ses yeux, qu'il tient ordinairement baissés, et m'a lancé deux éclairs qui m'ont interdite. Ma chère, il a certes, les plus beaux yeux du monde. Je lui ai demandé si je l'avais fâché en quelque chose, et il m'a dit alors, dans sa sublime et grandiose langue espagnole, « Mademoiselle, je ne viens ici que pour vous apprendre l'espagnol. » Je me suis sentie humiliée, j'ai rougi. J'allais lui répliquer par quelque bonne impertinence, et quand je me suis souvenue de ce que nous disait notre chère mère en Dieu, et alors je lui ai répondu « Si vous aviez à me reprendre en quoi que ce soit, je deviendrais votre obligé. » Il a tressailli, le sang a coloré son teint olivâtre. Il m'a répondu d'une voix doucement émue. La religion a dû vous enseigner mieux que je ne saurais le faire à respecter les grandes infortunes. Si j'étais donne en Espagne et que j'eusse tout perdu au triomphe de Ferdinand VII, votre plaisanterie serait une cruauté. Mais si je ne suis qu'un pauvre maître de langue, n'est-ce pas une atroce raillerie? Ni l'une ni l'autre ne sont dignes d'une jeune fille noble. Je lui ai pris la main en lui disant « J'invoquerai donc aussi la religion pour vous prier d'oublier mon tort. » Il a baissé la tête, a ouvert mon Don Quichotte et s'est assis. Ce petit incident m'a causé plus de trouble que tous les compliments, les regards et les phrases que j'ai recueillis pendant la soirée où j'ai été le plus courtisé. Durant la leçon, je regardais avec attention cet homme qui se laissait examiner sans le savoir. Il ne lève jamais les yeux sur moi. J'ai découvert que notre maître, à qui nous donnions 40 ans, est jeune. Il ne doit pas avoir plus de 26 à 28 ans. Ma gouvernante, à qui je l'avais abandonné, m'a fait remarquer la beauté de ses cheveux noirs et celle de ses dents, qui sont comme des perles. Quant à ses yeux, c'est à la fois du velours et du feu. Voilà tout. Il est d'ailleurs petit et laid. On nous avait dépeint les Espagnols comme étant peu propres, mais il est extrêmement soigné. Ses mains sont plus blanches que son visage. Il a le dos un peu voûté, sa tête est énorme et d'une forme bizarre. Sa laideur, assez spirituelle d'ailleurs, est aggravée par des marques de petites véroles qui lui ont couturé le visage. Son front est très proéminent, ses sourcils se rejoignent et sont trop épais, ils lui donnent un air dur qui repousse les âmes. Il a la figure rechignée et maladive, qui distingue les enfants destinés à mourir et qui n'ont dû la vie qu'à des soins infinis, comme sœur Marthe. Enfin, comme le disait mon père, il a le masque amoindri du cardinal de Ximénès. Mon père ne l'aime point, il se sent gêné avec lui. Les manières de notre maître ont une dignité naturelle qui semble inquiéter le cher duc. Il ne peut souffrir la supériorité sous aucune forme auprès de lui. Dès que mon père saura l'espagnol, nous partirons pour Madrid. 2 jours après la leçon que j'avais reçue, quand Henarez est revenu, je lui ai dit, pour lui marquer une sorte de reconnaissance, « Je ne doute pas que vous n'ayez quitté l'Espagne à cause des événements politiques. Si mon père y est envoyé, comme on le dit, nous serons à même de vous y rendre quelques services et d'obtenir votre grâce au cas où vous seriez frappé par une condamnation. Il n'est au pouvoir de personne de m'obliger, » m'a-t-il répondu. « Comment, monsieur ? » lui ai-je dit. « Est-ce parce que vous ne voulez accepter aucune protection ou par impossibilité ?»« L'un et l'autre, » a-t-il dit en s'inclinant et avec un accent qui m'a imposé silence. Le sang de mon père a grondé dans mes veines. Cette hauteur m'a révoltée, et je l'ai laissée là. Cependant, ma chère, il y a quelque chose de beau à ne rien vouloir d'autrui. Il n'accepterait pas même notre amitié, pensais-je en conjuguant un verbe. Là, je me suis arrêtée, et je lui ai dit la pensée qui m'occupait, mais en espagnol. Le Henarez m'a répondu fort courtoisement qu'il fallait, dans les sentiments, une égalité qui ne s'y trouverait point, et qu'alors cette question était inutile. Entendez-vous l'égalité relativement à la réciprocité des sentiments ou à la différence des rangs? Ai-je demandé pour essayer de le faire sortir de sa gravité qui m'impatiente. Il a encore relevé ses redoutables yeux. Et j'ai baissé les miens. Cher, cet homme est une énigme indéchiffrable. Il semblait me demander si mes paroles étaient une déclaration. Il y avait dans son regard un bonheur, une fierté, une angoisse d'incertitude qui m'ont étreint le cœur. J'ai compris que ces coquetteries, qui sont en France estimées à leur valeur, prenaient une dangereuse signification avec un Espagnol. Et je suis rentrée un peu sotte dans ma coquille. En finissant la leçon, il m'a saluée en me jetant un regard plein de prières humbles et qui disait « Ne vous jouez pas d'un malheureux ». Ce contraste subit avec ses façons graves et dignes m'a fait une vive impression. N'est-ce pas horrible à penser et à dire ? Il me semble qu'il y a des trésors d'affection dans cet homme.